France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Il y a quelques années, l'écrivain Philippe Delerme écrivait la première gorgée de bière, ces petits moments de plaisir simples qui remplissent la vie et la rendent meilleure. Notre invité ce soir s'intéresse à la dernière gorgée de bière, celle qui nous rappelle que même si on reprend un verre, cette dernière gorgée-là est la fin de quelque chose qui ne se reproduira jamais, en tout cas jamais de la même manière. Les premières fois, on les provoque souvent, les dernières fois, elles nous sont imposées. Et si cette dernière gorgée de bière, vous l'avez bu avec des amis que vous aimez, même si vous savez que vous passerez d'autres moments évidemment avec eux, à ce moment-là, ce moment que vous vivez maintenant, il a une fin et la prochaine fois n'aura jamais cette même saveur. C'est le temps qui passe, la conscience du temps qui passe, la conscience, comme l'écrit notre invité, que chaque moment est unique et non réitérable. Quel vertige, à la fois merveilleux et terriblement angoissant. Merveilleux parce que quand on sait que chaque moment est le dernier, on le vit intensément, parce qu'une dernière fois, c'est parfois un soulagement, c'est parfois une délivrance. Angoissant parce que c'est aussi comme une petite mort au fond, et en tout cas un puits de nostalgie. Il y a plein de dernières fois et vous allez partager les nôtres et les vôtres avec nous. Le dernier verre quand on change de boulot, le dernier regard à sa chambre d'enfant quand on quitte le nid, les derniers mots à vos collègues avant de partir à la retraite, le dernier carton avant de déménager, la dernière salle de classe avant de partir, le dernier tiroir vidé avant de démissionner, le dernier mot avant de mourir, les derniers mots que l'on dit à quelqu'un qui va mourir, le dernier concert d'un artiste, la dernière compétition d'un sportif, le dernier regard à son pays en cas d'exil. Toutes ces dernières fois, la philosophe Sophie Galabru les a compilées, les a réfléchies, puis les a vécues pour certaines, évidemment, comme nous tous. Les dernières fois qu'on peut anticiper, comme le dernier verre avant un avion pour partir loin et longtemps. Les dernières fois qu'on prend dans la gueule, comme le dernier mot avant de se quitter quand on vient de se faire larguer. Les dernières fois qu'on ritualise, comme la dernière fois qu'on entre dans la maison de son enfance. Les dernières fois qu'on foire régulièrement, comme la dernière clope, par exemple. Partageons donc nos dernières fois. C'est le téléphone sonne et soyons les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Olivier, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu. Bonsoir.
Merci. Bonsoir, Fabienne.
On vous écoute, Olivier.
Oui, non, mais effectivement, cette notion de dernière fois, je l'ai vécue quand j'étais à Paris. J'ai déménagé ensuite pour me rendre au Canada. Et effectivement, j'ai pris ce dernier café avec des amis et j'avais le sentiment que je vivais quelque chose de vraiment d'extraordinaire. C'était un. Comme si c'était un moment un peu suspendu. Et effectivement, dans cette notion de dernière fois, il y a déjà cette nostalgie. Cette nostalgie, même quasiment presque physiquement du présent. Elle est là, elle se distille comme ça, comme des grains de sable. Et voilà, c'est quelque chose vraiment de très particulier.
Et est-ce qu'elle disparaît dès que vous mettez le pied à l'aéroport? Vous êtes parti pour le Canada, donc vous avez quitté le pays. Est-ce que ça disparaît aussi instantanément avec l'idée que désormais autre chose s'ouvre, ou est-ce que vous le portez dans votre sac à dos, Olivier?
Alors, effectivement, je le porte dans mon sac à dos, mais effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que ensuite, tout change, parce que je suis à l'aéroport, ensuite j'arrive dans un autre pays, et puis il y a d'autres senteurs, il y a une autre atmosphère. Et déjà, déjà dans l'avion, j'ai déjà une pointe de nostalgie.
Mmh.
Voilà.
Bon, et maintenant, ça va?
Comment?
Et maintenant, ça va? Ça fait combien de temps que vous êtes au Canada?
Maintenant, ça fait presque 15 ans.
Ah oui,
mais
donc ça va.
Mais c'est vrai que la nostalgie, elle existe, par exemple, par rapport à des choses toutes simples. Par rapport à un bon café, par rapport à un fromage, par rapport à ceci, par rapport à cela. Mmh. Et c'est vrai que vous le disiez d'une façon implicite au début de l'émission, c'est vrai que cette nostalgie, elle peut aussi être multiple aussi. Voilà. Par exemple, la nostalgie de l'exil, la nostalgie par rapport à son enfance, etc., etc.
Eh bien, écoutez, on va y venir tout au long de cette émission. Merci beaucoup pour l'entrée en matière et la jolie histoire qui est la vôtre, Olivier. Bonsoir, Sophie Galabru.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Nos dernières fois, défier la nostalgie aux éditions Alary, c'est votre dernier livre. C'est plutôt le sous-titre qui m'intéresse, en fait. Défier la nostalgie, ça veut dire que, en tout cas, en vous lisant, on comprend que c'est un exercice. Ça a été, en tout cas, un exercice pour vous de défier la nostalgie après chacune des dernières fois, comme celle d'Olivier par exemple.
Oui, absolument. Le livre démarre d'ailleurs sur mon expérience d'une nostalgie
un peu trop radicale d'ailleurs, parce que c'est une nostalgie qui m'arrive dans, au moment même où je vis un moment heureux, et je suis déjà dans l'inquiétude qu'il soit passé. Je vis ce sentiment du c'est déjà passé, il n'y aura plus jamais cela. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, Amélie Nothomb parlait de son dernier livre, L'Impossible Retour, et disait qu'elle était dans une nostalgie anticipative, et je me suis dit, c'est exactement ça. J'anticipe déjà la nostalgie à venir, et je me gâche le moment présent. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un rapport au temps à revoir, en tout cas de quel rapport au temps je souffre pour être comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas un autre rapport à la durée, à développer pour ne pas se gâcher le présent?
Et l'une des... Alors, ce n'est pas des clés, mais quand vous déclinez, au fond, les dernières fois, il y a ceux qui sont capables d'anticiper. Est-ce que anticiper, justement, c'est maîtriser et c'est un peu contenir cet abîme-là, en fait, qui est l'abîme du temps, à votre avis?
C'est vrai qu'on peut essayer de s'entraîner,
On s'entraîne à la dernière fois.
À figurer le dernier moment à un lieu ou à un être, à se figurer mentalement, à se l'imaginer, pour essayer de digérer, d'accepter. Mais je pense qu'il y a
c'est
une part...
C'est comme ça qu'on le rate, hein. Vous croyez pas ?
Oui, et il y a une part qui est de toute façon qui nous échappe et qui nous excède, parce que la dernière fois, c'est vrai que c'est parfois un moment difficile et douloureux, et on ne peut pas complètement se l'imaginer. Il y a du vécu, il y a quelque chose à vivre, sinon et qu'on ne peut pas complètement attraper.
Je disais en introduction que les premières fois, on les provoque, les dernières fois, en général, beaucoup moins. Mais au fond, en même temps que je le dis, et quand j'y réfléchis, je suis pas sûre d'avoir raison là-dessus, en fait. Il y a des dernières fois qu'on provoque, toutes les dernières fois, d'abord, parfois elles sont joyeuses, parfois, c'est un soulagement, il y a des fois une démission d'un boulot, ou quitter quelqu'un est un vrai soulagement. Est-ce que, au fond, cette phrase, on maîtrise nos premières fois et pas nos dernières fois, est complètement à l'ouest, en fait.
Non, mais c'est normal. C'est-à-dire que la première fois, ça a le visage du début, de l'initiative. La dernière fois, on a tout de suite l'impression que ça veut dire être dépossédé, pris de court par la notion de fin, être impuissant. C'est vrai que parfois, alors soit on voit venir, on anticipe, on essaye de faire quelque chose pour se préparer, si tant est que c'est possible, et puis parfois on décrète. La volonté décrète pour se libérer, s'émanciper d'une addiction, d'une emprise. Encore que, mais on en reparlera peut-être, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure façon de se libérer d'une addiction, d'une dépendance, que de compter la dernière dose.
Et de tâcher de la ritualiser, en fait. Les dernières ritualisées sont parfois ratées. On y viendra peut-être avec nos auditeurs. Voici Karine en attendant. Bonsoir Karine.
Bonsoir. Je vous remercie pour vos émissions de qualité. Bonsoir à votre invité. Et en fait, ma première réflexion que j'ai eue quand je vous ai entendu, c'était de me dire qu'il y avait des sentiments douloureux ou joyeux, mais qui font de toute façon avancer dans la vie. Mais que quoi qu'il se passe, ces dernières fois, c'était toujours l'aube d'une nouvelle première fois, en fait.
Qu'est-ce qu'on dit de ça? Merci beaucoup, Karine. Est-ce qu'on s'arrête sur cette phrase? Une dernière fois, c'est toujours l'aube d'une première fois.
Ça arrive. Et puis, il arrive aussi parfois qu'après une dernière fois, il y a un temps où rien ne se passe, où on est simplement dans l'achèvement ou la sidération. Ça dépend de la dernière fois. Parfois, c'est des dernières fois qu'on n'a pas vu venir, qui sont vraiment fracassantes, sidérantes. Et il va falloir digérer ou traverser cela. Et puis parfois, c'est des dernières fois qui ouvrent tout de suite à un renouveau. Ça dépend. C'est pas...
Vous les avez apprivoisées comment, vous, les dernières fois? Puisqu'effectivement, ça commence par votre vertige à vous, en fait. Et comme vous le disiez, se gâcher des moments, c'est imaginer que c'est les derniers. Comment vous les soignez, vous? Est-ce que vous avez fini par le soigner? Est-ce que la vie fait qu'on le soigne, en fait, parce qu'on les additionne les dernières fois?
Je pense qu'on peut... Oui, moi, j'ai été très traumatisée par des expériences de jamais plus, d'irréversible. Parce qu'en fait, c'est de ça que parle le livre.
Exactement.
D'abord, c'est l'irréversible. Ça arrive une fois, mais pas deux. Ça ne se retrouvera pas. Et je l'ai vécu parce que j'ai affronté des séparations, des morts, des départs. Et peut-être précocement, donc ça m'a peut-être effectivement particulièrement pesé. Et je pense, oui, que d'avoir réfléchi à cela, j'avais déjà peut-être dépassé le problème pour l'écrire, mais ça m'a beaucoup aidé d'écrire ce livre. Alors comment je l'ai dépassé? C'est en m'apercevant que j'étais dans un rapport très quantitatif et comptable au temps, c'est-à-dire que je n'arrêtais pas de compter le temps, de le mesurer, de compter les fois, d'appréhender la fin et de mettre en place une sorte de compte à rebours, pensant et
L'otage du temporel, ce sont des mots qui sont à vous.
Oui, j'étais otage d'un budget temporel, je dis, mais parce que, également un peu incité, soit par la philosophie et même la sagesse populaire, qui consiste à dire, pour vivre bien, heureux ou intensément, vivez chaque instant comme le dernier. Mm-hmm. Donc, mais le problème, c'est que peut-être qu'on crée de l'intensité, on intensifie, mais on dramatise aussi beaucoup en vivant, en comptant et en pensant très souvent au concept de dernière fois ou de fin. Et je crois que c'est un concept, en fait, la dernière fois, c'est une formule un peu scénaristique, cinématographique. C'est une façon de se raconter sa vie et de dire, ah bah tiens, là, il y a un terme, il y a une conclusion, comme le monsieur nous en parlait quand il s'expatrie. Alors, à la fois, ça intensifie, on se met en scène cette esthétique, mais à la fois, on se fait du mal, on dramatise, parce qu'en fait, le temps, et c'est la deuxième découverte que j'ai eue en écrivant, le temps est beaucoup plus fluide et continu. Et en fait, il va nous proposer de nouvelles choses, des renaissances, des nouveautés, des opportunités. Et les dernières fois ne sont pas forcément des fins. Il y a beaucoup de choses en fait, qui continuent derrière ces moments intenses.
Heureusement, d'ailleurs, il y a des moments qui continuent. Alors, il y a effectivement des fins qui sont inéluctables et d'autres qui nous arrivent dessus et même qui nous arrivent en plein dans la figure. Les fins inéluctables et qui ne sont pas forcément malheureuses, évidemment. C'est par exemple chez vous, Françoise. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir Fabienne Synthèse, bonsoir à tous et bravo France Inter pour vos records d'audience.
Merci Françoise.
Alors moi je suis infirmière à l'hôpital public depuis 1985 et demain c'est mon dernier jour de travail.
C'est demain ?
C'est demain.
Oh, trop bien, ok.
Voilà, c'est le moment je crois. Je suis en phase avec cette décision.
Et vous faites quelque chose ou pas ?
Alors, pour fêter ça, eh bien, je pars 2 mois à la montagne avec 2 amis d'enfance et on va travailler ensemble pour la première fois, alors qu'on se connaît depuis la maternelle. Et je trouve que c'est un chouette moment, quoi. Je
vous allez vraiment travailler ensemble, c'est ce que vous avez dit, Françoise ?
Ouais, on va travailler ensemble dans un bar.
Ah,
ouais. Un truc qui n'a rien à voir avec mon travail, où je vais rencontrer des gens en vacances, heureux, joyeux. Par contre, ben, je suis fière de ce que j'ai fait, je suis fière du service rendu, j'ai une pensée pour chaque patient, chaque collègue, chaque médecin, mais je sais pas, j'ai pas l'impression que ça mette un terme à ma vie, quoi.
Mm-hmm. Et y a un pot avant de partir ou pas, quand même ?
Alors, il y aura pas de pot, parce que par contre, ça, je déteste.
Ah ouais ?
C'est bizarre, parce que j'ai organisé les départs de tout le monde.
C'est drôle.
Tout le temps. Mais j'ai pas envie de faire un pot de départ. J'ai envie que ça soit comme si je partais pour revenir demain, quoi.
Mm-hmm. Intéressant, Françoise, merci mille fois. Vous avez fait réagir Sophie Galébru en même temps qu'elle vous écoutait. Qu'est-ce qu'on dit, ça ?
C'est super intéressant parce que c'est peut-être une façon, comme je disais, de ne pas chercher à dramatiser ce moment conclusif.
Ni à mettre en scène, en fait.
Ni à mettre en scène, ce que je peux parfaitement comprendre, parce que ça peut créer, en fait, à la fois de la beauté, mais de la douleur aussi, hein, cette mise en scène. Et j'aime bien l'idée qui a été dite de... là, c'est vraiment une dernière fois qui vient de la volonté, du désir, de la vitalité. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase qui consistait à dire « ça ne met pas fin à ma vie
». Bien sûr.
Ce qu'on peut ressentir quand
quand on part à la retraite, parce que c'est au fond ce qui définit sa vie. On a l'impression que c'est ce qui définit notre vie, ce que nous faisons. Donc, on perd ce qui définit notre vie. Mais
oui, on s'identifie avec ce qu'on fait, avec souvent le métier qu'on pratique et depuis des années. Et donc, le quitter, ça peut être comme une petite mort de soi ou d'une partie de son être. Et en réalité, nous sommes beaucoup plus... Nous sommes beaucoup plus riches et en excès sur ce qu'on fait. Nous avons bien d'autres talents, compétences, passions, amour, potentialités, et c'est ce qu'exprime ce témoignage.
Après, donc, elle fait pas de peau, effectivement, notre amie Françoise. On parlait tout à l'heure, on a à peine évoqué l'idée qu'il y a beaucoup de gens qui ritualisent, en fait, les dernières fois. Alors, je sais pas si on ritualise pour les mettre dans une boîte, en fait, pour pouvoir s'en souvenir vraiment telles qu'elles sont passées, si ça fait moins peur quand on ritualise, si on a l'impression de fermer une porte quand on ritualise. Qu'est-ce que ça dit, ça ?
Oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont besoin des rituels pour concrétiser, marquer le coup, si je puis dire, et s'assurer, bien prendre conscience qu'un achèvement a lieu, un tournant se prend. C'est vrai, ça peut rassurer. Je pense aussi, et ça a été dit d'ailleurs dans le témoignage, quand on fait un pot, une célébration, c'est aussi commémorer. Et c'est rendre hommage, c'est faire honneur à tout ce qu'on a fait, aux gens avec qui on a collaboré, travaillé. Parce qu'en fait, ce qui se noue dans le temps, est un peu impalpable et invisible, et on a l'impression que ça passe et ça file et que ça disparaît. Mais en réalité, ce qui a été fait est éternel et a pour toujours été fait. Mmh. Et on le commémore, en fait, dans cette célébration.
Voici Catherine qui est avec nous. Bonsoir, Catherine.
Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, François de Terre.
On vous écoute.
Moi, c'était une année où mon fils venait d'entrer en sixième. Et le soir, je l'accompagne dans sa chambre. Il commence à monter l'escalier devant moi. Et puis, il se tourne et puis il me dit « Prends-moi dans les bras, porte-moi ». Et je suis très émue, en fait. Et donc, je l'ai amené jusqu'à son lit. Je l'ai pris dans mes bras comme un tout petit. Il avait quand même 10 ans. Et voilà. Et puis, en fait, je me suis rendu compte un certain temps après que c'était la dernière fois que je l'avais pris dans mes bras pour le porter. Et comme c'était en plus mon deuxième enfant, mon dernier enfant, c'est la dernière fois que j'ai pu porter un de mes enfants dans les bras. Voilà, donc c'est un truc étrange parce que je m'en rappelle bien et de temps en temps j'y pense. Alors aujourd'hui il a 21 ans, donc
c'est beaucoup plus lourd.
Oui, beaucoup plus lourd. Mais c'est vrai que c'est une des choses de ma vie. J'ai d'autres dernières fois, mais celle-ci, je sais pas pourquoi, elle est restée. Elle est marquée, je ne sais pas pourquoi.
Eh bien écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ce joli témoignage. Sophie Galabru, ce que j'entends, c'est la dernière fois qu'il saute à la gueule en fait. C'est-à-dire, on ne l'a pas vu venir, mais au fond, on se dit, mince, c'était la dernière fois.
Ce qui est beau aussi dans le témoignage qui vient d'être donné, c'est que c'est un enfant qui a cette conscience du temps et de son évolution, de sa maturation et le fait qu'il quitte l'enfance. Alors qu'on peut penser que les enfants n'ont peut-être pas ce sujet en tête du temps, du vieillissement. Et en fait, si, et il en a pris conscience et il a devancé sa mère. Parce que souvent, moi j'ai des témoignages de parents qui me disent qui ont loupé en fait plein de dernières fois de leurs enfants, qui se rendent compte qu'ils sont déjà grands et que quelque chose de leur enfance est parti et qui en sont nostalgiques.
C'est marrant parce que les parents disent aussi qu'ils ratent les premières fois, comme par exemple, il y en a un qui n'est pas là quand le gamin se met à marcher ou des choses de ce genre-là, c'est les premières fois qu'on rate. Et puis, ou les dernières. Après, c'est intéressant ce que vous dites sur l'enfance parce que ça charrie tellement de choses. Effectivement, quand on est tout petit, on n'a pas cette notion-là en fait du temps, de l'avant, de l'après. Peut-être qu'on commence à rentrer doucement dans cette conscience-là, à un moment, vers 6 ou 8 ans, quand on va à l'école, ne serait-ce que ça, j'imagine, il faut se lever. Donc il y a un certain nombre de choses qui font qu'il y a un moment, un début, un milieu, et puis une fin. Et puis il y a tout ce qu'on trimballe aussi. Et vous, la première, avec vos professeurs, vous le dites, avec vos salles de classe, avec la maison d'enfance, ça charrie tellement de dernières fois l'enfance. En fait, c'est une succession de petites dernières fois, moi j'ai l'impression.
Oui, l'enfant n'a pas encore une pleine conscience du temps. En tant qu'enfant, on subit le temps des adultes et leur rythme et leur organisation. On ne comprend pas très bien. Le temps paraît d'ailleurs beaucoup plus allongé, tendu, on est beaucoup plus enfoncé. Et puis, c'est vrai, vers 7-8 ans, c'est ce que dit notamment le grand écrivain Eugène Ionesco, et que je cite, il dit « Moi, je prends conscience du temps quand j'ai pris conscience que ma mère allait mourir. » Et ça m'a fait prendre conscience de cela, de la temporalité. Et ça peut être ça, ou ça peut être prendre conscience qu'on grandit. On ne sera plus jamais dans une poussette, plus de biberon. On entre dans la classe aussi rythme l'existence et fait comprendre à l'enfant qu'il évolue. Et il y a plein de choses dans l'environnement qui font comprendre le passage, le flux du temps, l'irréversible.
C'est comme l'adieu. Je ne sais pas si c'est le mot que vous employez, mais il y a un adieu au refuge, en fait, quand on quitte la chambre d'enfant, quand vous racontez, ça arrive dans toutes les familles qu'on finit par vendre la maison d'enfance, parce que c'est comme ça, c'est les circonstances de la vie. Et oui, c'est un adieu au refuge, un adieu au confort, un adieu au cocon, en fait, à l'enfant qu'on pourrait aller retrouver, qu'on n'ira jamais récupérer, finalement.
Oui, c'est vrai je pense que beaucoup d'entre nous se souviennent, moi, y compris du dernier moment chez ses parents, l'adieu à sa chambre d'enfant ou d'adolescent. Et surtout, c'est vrai, j'en parle longuement, l'adieu à une maison de famille, en tout cas, un lieu, un refuge qui a été particulièrement heureux, qui a structuré l'enfant. Ouais.
Et vous dites, je veux ma dernière fois. Et je trouvais que cette phrase était hyper intéressante et singulière. Je veux ma dernière fois. J'ai besoin de la fermer, cette porte-là. Et ce que je trouve vertigineux, c'est que elle n'est pas forcément réussie, du coup, cette dernière fois, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'on vient chercher dans cette dernière fois-là, en fait.
C'est vrai, j'ai hésité au moment de vider une maison de famille, et j'ai hésité à lui dire adieu, à venir la voir, et je me suis dit, je veux ma dernière fois.
Ben ouais.
Parce que sinon, je crains de le regretter, j'ai envie de m'imprégner de ce lieu une dernière, parce que En fait, on dit adieu de manière certaine aux choses physiques et matérielles, c'est ce que je dis aussi dans, dans ce livre. Pas sûr qu'on dise adieu sur un plan spirituel, c'est-à-dire sur la réalité du cœur et de l'esprit. Et donc, parce que j'avais compris intuitivement que cette maison-là, son atmosphère, je n'y aurais plus accès, j'ai voulu m'en imprégner des odeurs, de l'atmosphère, des murs, des objets, même si elle était bien métamorphosée et bien changée, et revisiter ce lieu a créé des réminiscences temporelles. C'est-à-dire qu'un lieu n'est pas qu'un lieu, il emmagasine... Il synthétise du temps et il m'a permis un voyage dans le temps et dans le passé fabuleux. Et effectivement, c'est toujours un peu décevant parce que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de particulier, un rituel, il faut que je filme, il faut que je prenne des photos.
C'est ça, l'idée.
Puis je me suis énervée en me disant, mais ça sert à rien de mettre un filtre entre le lieu et moi. Il faut vivre, il faut naviguer dans ce lieu. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des regrets, parfois des chagrins ou des joies. Ça fait partie de la vie et je suis très heureuse d'avoir pu emporter avec moi toutes ces sensations. Mais c'est ce que je dis, il n'y a pas eu de fin. Mon lien n'est pas terminé avec ce lieu, puisque j'en rêve...
Ah, c'est vrai, vous en rêvez ?
J'en rêve toutes les semaines.
Incroyable.
Et c'est un lieu qui m'habite, mais je pense qu'il y a plein de gens qui vivent ça.
Vous avez des photos ou pas ?
Non, j'en ai en tout cas pas à portée de main, mais tout est dans mon esprit.
Et vous en rêvez toutes les semaines ?
Pratiquement.
C'est un truc de fou.
Ouais.
On est en train de parler des dernières fois avec la philosophe Sophie Galabru et son livre Nos dernières fois aux éditions Alary Éditions. Et avec vous, Perrine, bonsoir.
Bonsoir.
On est ravis de vous entendre, Perrine. Vous allez être un peu la porte-parole de pas mal de nos auditeurs que je vois passer, notamment sur le groupe WhatsApp. Allez-y, on vous écoute.
Oui, j'ai envoyé un message sur WhatsApp. J'évoquais une dernière fois qui me revient souvent et que j'ai particulièrement gardé en souvenir. C'est la dernière tétée. Pour ma troisième fille. Donc j'ai eu trois enfants que j'ai allaités. J'ai pris beaucoup de plaisir à les allaiter. Et puis pour ma troisième, comme pour les autres, la fin de l'allaitement était un peu préparée. Il y avait plus de repas diversifiés. Et puis avec le retour au travail, les tétés diminuaient et puis bon voilà, j'avais mon petit programme pour faire diminuer aussi la lactation. Et c'est vrai que pour ma dernière fille, déjà dans notre couple, c'était clair que la troisième serait notre dernier enfant. Et puis du coup, à cette dernière tétée, j'ai compté, je fais ah mais maintenant je suis à la fin de ce programme de baisse de la lactation et c'est la dernière. Et du coup, c'était un moment qui était un petit peu triste parce que je me suis dit c'est la dernière et en même temps dans ma tête je passais à autre chose. C'était autre chose dans ma parentalité qui n'était plus physique parce que ce qui est grossesse, allaitement, on est très dans le corps et finalement là je passais à autre chose et je me sentais aussi aller vers une nouvelle voie en tant que maman et ça a été finalement aussi un moment agréable. C'était pas seulement une fin, c'était aussi on passe à autre chose.
Merci beaucoup, voilà. Perrine, merci pour votre témoignage. Sophie Galabru, ce que je trouve très joli dans le témoignage de Perrine, c'est que elle nous dit, oh, puis à un moment je me suis rendu compte ça va être la dernière en fait. Donc il n'y avait pas de croix sur le mur en attendant la dernière, il n'y avait pas cette espèce de moment où du coup, on se raconte plein d'histoires. Ça s'est finalement fait avec beaucoup de naturel.
Oui, on a l'impression que c'était aussi senti dans le rapport à l'enfant, à son corps. En fait, moi, ce que j'entends, c'est un peu un deuil d'impossible. Ne plus allaiter, ne plus tomber enceinte. C'est un peu le deuil même d'une puissance. D'ailleurs, quelque part, la dernière fois, me fait un peu travailler cela. C'est le deuil de la puissance dans la vie. Il y a des moments où on ne fera plus certaines choses, où il y a des possibles qui s'évanouissent. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un deuil de la vitalité. C'est pas parce que on ne peut plus faire certaines choses, on ne les fera plus, qu'il n'y a pas d'amour de la vie. Et c'est ce qu'exprime effectivement Perrine. On est passé à autre chose. C'était quand même joyeux. Ça, on avance.
Et en même temps, j'aime cet exemple parce qu'il y a un morceau de chapitre dans votre livre sur les derniers corps d'une femme.
Oui.
Vous avez ce mot. Vous dites d'autant que le corps féminin est plus qu'un autre, une chair cadencée par un temps biologique et social. Ce qui est totalement vrai.
Oui.
Ces moments de temps et de dernière fois dans le corps d'une femme, c'est très particulier et surtout c'est vraiment rien qu'à nous pour le coup.
Oui, c'est rien qu'à nous et j'avais depuis longtemps le sentiment et l'intuition que les femmes peuvent avoir une temporalité différente, un rapport différent au temps et c'est clair que la biologie a sa part et son rôle parce que moi je sais que cela m'a marqué et j'en témoigne, nous avons des adieux, on a un adieu très fort au corps de petites filles par exemple, lorsque l'on on a ses règles, une révolution hormonale, des formes, et puis même Et donc, quelque part, socialement, des choses se jouent.
Ouais.
On ne peut plus complètement se mêler aux garçons. C'est la fin de l'illusion, peut-être, d'une forme d'égalité ou d'indifférenciation. Et puis, on comprend aussi qu'on va porter les conséquences d'un acte sexuel qui est éventuellement la grossesse et la maternité. Quand on est jeune adulte, on se demande si on diffère cette maternité, si on y va, si on n'y va pas. Quand la ménopause arrive, c'est l'adieu au corps de jeune femme fertile, qui peut être une libération, mais parfois peut parfois aussi chagriner, parce que c'est le deuil d'une puissance, encore une fois. Et effectivement, les femmes sont donc animées dans leur corps par la cyclicité, tous les mois. Elles sont encombrées par la douleur, l'inconfort, des responsabilités aussi qui leur reviennent à la figure, l'adieu à ce corps de fillette qui se remémore. Et puis elles vont... Ce corps évolue sans arrêt par ces changements hormonaux, et donc elles ont un rapport au temps qui est, à mon avis, beaucoup plus précis, détaillé, constant que les hommes.
Bonsoir François.
Oui, bonsoir.
On vous écoute François.
Oui, je rebondissais sur ce que vous disiez sur le deuil par rapport à un lieu de vie, un lieu d'enfance, et ça fait rappeler la pièce de théâtre La Cerise de Tchekhov qui est sublime sur ce sujet. Et surtout, c'est toutes ces vidéos en ce moment sur Instagram de ces gens qui quittent un peu précipitamment leur maison à Los Angeles et qui filment en se disant « c'est la dernière fois qu'on est là ». Et ils évoquent leurs souvenirs et ils partent. Et c'est vrai que c'est assez émouvant, ça parle de tellement d'autres histoires.
Merci beaucoup François, et vous avez raison, on les voit ces scènes-là, et encore une fois, là Sophie Galabru, c'est une dernière fois que non seulement on n'avait pas préparé, qu'on n'a pas pu anticiper, enfin, c'est vraiment la dernière fois qui nous saute à la gueule. Quoi.
Ah oui, là c'est la dernière fois subie, fracassante, traumatisante que l'incendie d'une maison, d'un lieu de vie même, parce que c'est pas qu'une maison, c'est tout un quartier qui part en fumée, mais c'est les souvenirs, c'est un environnement,
c'est ça,
c'est bien.
C'est le boulanger, là où on boit son café, c'est le chemin de l'école, c'est tout à la fois. Ouais.
Et les objets ne sont pas que des objets. Derrière les objets, il y a tellement de liens affectifs, de souvenirs, de temps en fait, encapsulés là-dedans, que c'est pas être matérialiste que de pleurer sa maison, ses objets qui partent. C'est être très sentimental, je pense aussi. Et effectivement, il faut le mentionner, ce drame se joue aussi en ce moment, et c'est une dernière fois traumatisante.
Objets inanimés, avez-vous donc une âme, répétez ma mère tous les quatre matins. Sophie Galabru, on a cette remarque de Laurent sur WhatsApp qui dit « Est-ce qu'il n'y a pas un risque de le regretter si on ne célèbre pas une dernière fois ?»
Si, il y a un
j'aurais
risque.
Dû.
Il y a un risque. Moi, c'est ce que je me suis dit en quittant un lieu très cher. Il faut absolument y aller, il faut s'en imprégner, il faut le revoir, il faut renaviguer. Et puis, mais parfois, on n'a pas besoin de faire cela, peut-être parce que le deuil a déjà été fait depuis longtemps et on n'en a pas, voilà, il n'y a pas de nécessité. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui se ressent, mais qui doit se questionner pour, effectivement, ne pas avoir de regrets.
Bonsoir, Jacques.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Moi, j'amenais juste un petit témoignage sur la dernière fois que j'ai vécu et qui m'a marqué profondément. Je suis un peu ému d'en parler. C'était la dernière fois où j'ai pu échanger avec ma belle-mère, qui était une femme formidable, qui était atteinte d'un cancer incurable, mais qui a gardé toutes ses facultés intellectuelles jusqu'à la fin. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir un moment privilégié avec elle quelques jours avant son décès. J'ai pu lui exprimer ma reconnaissance et lui dire, la remercier pour la belle-mère formidable qu'elle avait été, pour la mère formidable qu'elle avait été, qui a permis à ma femme d'être la femme qu'elle est aujourd'hui, et puis la formidable grand-mère qu'elle a été pour mes enfants.
Merci beaucoup Jacques, merci vraiment pour ce joli témoignage. Vous en parlez longuement, Sophie Galabru. Des derniers mots. Et d'ailleurs, dans les deux sens, et c'est ça que j'ai trouvé formidable, il y a ceux dont on ne sait pas si on doit les dire, est-ce qu'on saura les dire, est-ce qu'on peut les dire à quelqu'un qui va mourir, et aussi celui qui sait qu'il va mourir et qui prononcera peut-être des derniers mots. Moi, ce que j'ai surtout aimé, c'est est-ce qu'on a toujours quelque chose à dire, au fond, quand on va mourir, ou est-ce qu'on a toujours quelque chose à dire à quelqu'un qui va mourir, même si on l'a aimé terriblement, est-ce qu'on a forcément toujours quelque chose à lui dire ?
Oui, c'est vrai que je parle des derniers mots du mourant et au mourant.
Exactement.
C'est-à-dire, quelqu'un qui va mourir, a-t-il absolument besoin de parler ? Souvent, d'ailleurs, l'extinction de la parole est le signal que la personne veut partir ou a déjà fait son deuil, est en train de basculer de l'autre côté. Et peut-être a tout dit, parce que c'est vrai que la mort, c'est le grand silence. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que certains qui sont en train de mourir ou ceux qui les assistent ont absolument besoin de parler parce que ils en auront plus l'opportunité, en tout cas directe, et donc les derniers mots paraissent sacrés. D'ailleurs, on les accorde même aux condamnés à mort.
C'est vrai.
Et parce que les derniers mots, alors soit du mourant, ce sont une façon peut-être de dire des choses à ceux qu'il aime, dire parfois des regrets, faire amende honorable, demander pardon, dire des choses essentielles et qui essentielles et cruciales pour synthétiser sa vie et ce qu'il veut dire aux autres avant de partir. Idem pour celui ou celle qui accompagne, il peut avoir le besoin de se confier, d'avouer des choses, des actes forts qui ne seront peut-être plus possibles après. Et donc, ça fait de ce moment-là un moment peut-être en effet à préparer, sur lequel il faut œuvrer attentivement pour ne pas avoir de regrets et mieux faire son deuil.
Après, ce que je trouve assez vertigineux, et au fond vous le dites aussi... mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ? Est-ce que je vais avoir quelque chose à dire ? Comment je vais devoir dire ? Comme s'il y avait cette espèce d'obligation. Et peut-être qu'il faut dire aux gens qu'il n'y a pas cette obligation-là, en fait.
Non, il y a
dire quelque
obligation.
Chose dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs.
Il n'y a aucune obligation. C'est vrai que j'évoque aussi la pudeur qu'on peut avoir quand quelqu'un... est en train d'entrer dans une maladie très longue, sûrement et peut-être incurable. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se parle des derniers moments ? Est-ce qu'on se parle de la mort ? Est-ce que ça ne va pas encore plus blesser celui qui souffre, qui est dans l'épreuve ? Moi, je crois personnellement, en tout cas, je ne prescris absolument rien. C'est à chacun de sentir.
Ouais.
Moi, je sais que j'ai eu besoin, avec des êtres chers, de parler, pour exorciser ma peur, mon inquiétude, parler de ce moment. J'avais l'impression de le défier un peu ou d'être moins écrasée ou impuissante face à lui, d'être moins isolée. Je trouvais que d'en parler à deux, ouvertement, nous rendait un peu plus forts face à la mort.
On a ce très très joli message de Jean sur WhatsApp qui dit ceci. Il dit « Mon épouse souffre de la maladie d'Alzheimer, elle est depuis 3 ans en EHPAD et je n'arrête pas de vivre des dernières fois. La dernière fois qu'on est ensemble, qu'on dort ensemble, la dernière fois qu'on joue ensemble au Scrabble, la dernière fois qu'on fait un voyage ensemble. En réalité, souvent on ne sait pas que c'est la dernière fois et c'est parfois bien compliqué. Il faut accepter, nous dit Jean, de vivre chaque jour comme une dernière fois. Et ça fait avancer. Et je trouve ça très joli. Et c'est marrant comme il y a des gens qui disent comme Jean, il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Il y en a d'autres qui disent exactement l'inverse. Faisons les choses comme si on les faisait pour la première fois.
C'est vrai que là, moi j'ai tendance à dire, une fois avoir écrit ce livre, ne soyons pas otages de cette peur. Ne vivons pas comme si c'était le dernier instant. Continuons de faire ce que nous aimons de faire. J'aime bien l'image de Socrate qui, nous le savons, a été condamné à boire la ciguë, un poison mortel condamné par le tribunal d'Athènes et qui va le boire très tranquillement et
continuant de discuter.
Continuant de discuter, de philosopher avec ses amis et ses disciples sans se préoccuper de sa fin et d'en faire une mise en scène. Mais ce que j'entends dans ce témoignage bouleversant, c'est l'accompagnement de celle qui va partir. Et en effet, là, on a une pression, c'est... que chaque moment peut être le dernier, parce que d'un moment à l'autre, ça peut s'arrêter en raison de la maladie. Et donc, c'est une inquiétude qu'on a, mais c'est aussi là, pour le coup, une forme d'exercice, de préparation mentale, que de voir chaque moment comme un moment qu'on essaye de rendre le plus beau, sur lequel on œuvre, pour ne pas avoir de regrets, pour faire de la fin de vie une œuvre, parce que je parle aussi de ce sujet, je crois que la fin de vie ne doit pas être vue comme quelque chose seulement de passif et de destructeur, mais peut être préparée, on peut œuvrer autour de cela pour créer des choses assez belles, même s'il y a des deuils douloureux.
Et vous faites beaucoup réagir nos auditeurs, Sophie Galabru. On a Fadila qui dit « Pour moi, les dernières fois permettent surtout de grandir, de passer à autre chose. Les rituels aident à vivre ces passerelles et à aller de l'avant. » On a Chris qui dit qu'il est très remué par cette émission. Il dit « Moi aussi, c'est la maison familiale où j'ai grandi et la mort de ma mère que j'ai accompagnée chez moi, à ma retraite. Et pour le travail, dit-il, j'ai géré, mais l'essence de notre éducation, etc., j'espère toujours des jours de bonheur, c'est pas très clair, des petits bonheurs dans les années 50-60 et j'ai eu des petits bonheurs et j'y pense chaque jour un peu plus et chaque jour encore. » Voici également Clara qui nous envoyait une note vocale.
Moi, j'ai toujours eu besoin de fêter les dernières fois. Et notamment le 7 juin 2015, j'étais en terminale et j'ai réuni quelques amis. Et on a fêté mon dernier comprimé de chimio. Je devais le prendre le matin, donc on a fait une petite soirée la veille et le lendemain matin, un petit brunch avec mes derniers comprimés de chimio. J'ai même une photo où je tire la langue avec ces comprimés sur le bout de la langue. Donc je voulais partager ça avec vous, je vous remercie, au revoir.
Et on est heureux de l'avoir partagé aussi avec nous. Y a des dernières fois qui sont évidemment des on espère, un point final et des fins joyeuses, Sophie Galabru, et youpi pour en faire la fête.
Hein. Ouais, c'est ce que je dis pour la maladie, c'est des dernières fois incertaines, c'est-à-dire qu'on espère que c'est la dernière chimio, que c'est la dernière séance, la dernière cure, ou la dernière thérapie. Là, on l'espère comme un horizon salutaire. Et puis, parfois, quand c'est incurable, on envisage alors sa fin de vie. Mais on peut en effet se réjouir des dernières fois, là c'est une dernière fois libératrice.
Alors on a un message, bougez pas parce qu'évidemment je l'ai perdu à force de bouger, de Dany, voilà, sur WhatsApp, qui dit, pour évoquer tout ce qui nous quitte, les dernières fois, les Japonais ont un mot qui est le nagori, qui se rapporte aussi bien à la dernière cerise, la dernière rose, la dernière feuille qui tombe de l'arbre, le dernier rendez-vous, c'est une douce nostalgie, nous dit Dany.
Oui, il y a un très joli livre que je suis d'ailleurs en train de lire, qui s'appelle Nagori, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais qui décrit en effet le bonheur d'être nostalgique dans sa vieillesse, c'est-à-dire pour les Japonais de se remémorer le bonheur qu'on a vécu. Et d'ailleurs, c'est pas que japonais, parce qu'Épicure disait, alors qu'il était malade et qu'il souffrait beaucoup, me rappeler de mes conversations philosophiques avec mes amis, de ces moments heureux de ma vie, ça me console, ça relève ma vie présente. Et c'est effectivement une très jolie conception. Moi, je combats plutôt la nostalgie anticipative et le rapport comptable est terrifié autant.
On a Sabine sur WhatsApp qui nous dit « J'écoute distraitement votre émission ». Ben bravo Sabine, j'avais pas trop envie d'écouter. Et puis, merci Sabine, j'ai les larmes aux yeux tout le temps, j'ai la gorge serrée et j'ai eu, comme tous, plein de fois et toujours souffert de ces moments-là. Je déteste par exemple, nous dit-elle, le dernier jour de classe. C'est trop d'émotions et trop lié au temps qui passe.
Moi j'ai adoré mon dernier jour de classe, j'ai adoré quitter l'école. Je trouvais que c'était la libération. Moi je trouvais que c'était une époque de grande docilité et dont j'avais envie de me libérer.
Et en même temps, vous avez fait des études très longues, et vous le dites d'ailleurs, vous avez mis un temps fou à mettre le point final à vos études.
C'est très paradoxal.
À vous dire que c'est le dernier, que c'est la dernière fois.
Oui, c'est vrai que j'ai étudié 10 ans et je suis devenue prof, donc quelque part, voilà. Je suis revenue au lieu que j'avais voulu quitter.
Vous êtes revenue en classe.
Oui.
Voilà, bah vous êtes punis. Ça s'appelle Nos dernières fois, défier la nostalgie, signé Sophie Galabru, Alary Édition. Merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir de dialoguer avec vous et avec vous tous qui avez été très nombreux.